Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous allez bien? Amen. Soyez bénis. Vous pouvez prendre place. Combien ça fait du bien d'avoir du monde dans la salle. Je sais que nous sommes déjà rendus à la session numéro 2 déjà pour les mercredis depuis que nous avons l'opportunité de nous réunir ici avec public. Et nous bénissons le nom de notre Dieu pour cela. Amen. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais en tout cas pour moi, vous m'avez manqué. Je me rappelle la dernière fois que j'étais ici, ça faisait dur un peu. Il y avait seulement le staff technique. Et à vrai dire, ce n'est pas la même chose lorsqu'il y a du monde dans la salle versus qu'il y a une présence. Je sais qu'il y a des personnes fidèles qui nous suivent depuis diverses plateformes. Ça fait du bien et nous vous encourageons à continuer à le faire. Mais il n'y a pas de meilleure place que d'être ici lorsque nous avons l'opportunité, lorsque Dieu nous fait grâce pour cela. Amen. Notre sœur a déjà prié. Notre Dieu est déjà ici. Nous l'avons amené avec nous. Et nous savons qu'il a déjà préparé quelque chose pour nous. Lui qui a déjà un plan précis, qui n'est jamais pris au dépourvu des situations, des circonstances. Et je crois qu'il avait un message tout particulier pour nous ce soir. Ce n'est pas avec une surprise que je vais vous amener dans un texte que vous connaissez déjà, puisque c'est la suite de ce qu'on a déjà présenté. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, et je vais lire pour vous les versets 3 jusqu'au verset 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Nous voici donc à la troisième et dernière exhortation tirée de ce texte, l'Épître aux Thessaloniciens. Exhortation que nous avons débutée en décembre dernier, que nous avons poursuivi en janvier, et dont nous terminons ce soir. Pour ceux qui avaient manqué les deux premières séances, et même si vous l'avez déjà écouté, si vous voulez rafraîchir votre mémoire, je vous invite tout simplement à aller réécouter l'enseignement qui est disponible sur la plateforme de l'Église. Les dates, c'était, si ma mémoire est si je me souviens bien, si j'ai une bonne mémoire, c'était le 8 décembre et le 12 janvier. Je vais bien entendu faire une brève récapitulation, question de vous permettre de bien comprendre la suite. Lors de la première séance, le texte le dit, dès le premier verset, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Et la première séance, le premier enseignement, on l'avait essentiellement basé sur la sanctification. On a défini la sanctification. On avait vu que la sanctification, c'est pas une suggestion, c'est pas un conseil, mais c'est la volonté de Dieu à notre sujet. Le mot sanctification, nous le trouvons à la fois dans le Nouveau Testament et à la fois dans l'Ancien Testament. Si on prend l'Ancien Testament, le thème hébreu que nous allons trouver, c'est le thème Kadosh. Et dans le Nouveau Testament, c'est le thème Agiamos. Ces deux mots-là donnent la signification en français, mis à part, sanctifié, saint, séparation. Ce qui veut dire la volonté de Dieu à notre sujet, c'est de nous séparer du monde. Pourquoi apôtre Paul a jugé bon d'adresser une telle exhortation à son peuple? C'est tout simplement parce qu'il y avait un risque. Et ce risque-là que les Thessaloniciens couraient, nous aussi, nous sommes soumis à ce même risque. C'est qu'avec le temps, il y a des choses qui étaient acceptables, qui ne l'est plus de nos jours, ou des choses qui n'étaient pas acceptables, mais qui l'est aujourd'hui, ou qui le sont, je devrais dire. Cependant, en matière de sanctification, en matière d'attente et exigence de Dieu à notre regard, il y a des choses qui ne changent pas, telles que la sanctification. La sanctification a été exigée par Dieu envers son peuple, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et c'est encore de mise. C'est encore exigé par Dieu. Nous avons dit aussi que la sanctification, c'est un attribut de Dieu. Dieu est saint. Et Dieu ne peut voir, ne peut tolérer quelque chose qui est souillé. Et si nous aspirons à être agréables à Dieu, à être en sa compagnie, nous devons nous aussi nous sanctifier. Nous avons retenu également l'exemple des créatures célestes, que ce soit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et on voit les anges, les chérubins, devant la gloire de Dieu, ne fait que dire ce que Dieu est. Dieu est saint. En Ésaïe, nous l'avons vu, et également dans le livre de l'Apocalypse, ben, c'est trois fois saint que les anges nous disent que Dieu est saint. Dieu est saint, il est trois fois saint. On a poursuivi pour voir que dans l'Ancien Testament, c'était l'exigence de Dieu, dans le Nouveau Testament aussi. Si vous retournez en arrière, les textes de référence, c'était dans les livres de Lévitique, chapitre 20, et dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Nous avons aussi mentionné que la sanctification est un processus qui a commencé avec ce que Dieu a fait pour son peuple. Il n'est pas saint qui le veut, mais est saint en fonction de ce que Dieu a accompli. La sanctification, c'est une position que nous avons dans le Seigneur. Jésus a pris notre fardeau, ce qui fait en sorte que Dieu détournait son regard de nous parce que nous n'étions pas saints. Jésus l'a amené à la croix. Et depuis, nous occupons une position de saint devant Dieu. Ça, c'est le départ. C'est ce que Dieu a fait. C'est le prix que ça a coûté à notre Seigneur pour qu'on soit saint. Mais il y a une suite. La suite qui nous demande de cheminer dans la sanctification, de garder ce manteau, pour ainsi dire, de sainteté que Dieu nous a donné à la croix. Et pour cela, nous devons continuer notre chemin de sanctification progressivement. Et on avait terminé pour dire que la sanctification, c'est une exigence de tous ceux qui espèrent voir le Seigneur un jour. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous mentionne dans le chapitre 12, le verset 14. Lors de la deuxième séance, on a poursuivi, on a parlé de la sanctification, mais on a vu une chose que Dieu nous a demandé aussi. Il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et l'image que Dieu nous a adressée, c'est, oui, je veux la sanctification de votre part, mais je ne vous dis pas seulement ce que je veux, mais je vous dis également comment y arriver. Si vous voulez être saint, dans votre chemin de sanctification, vous allez inévitablement croiser l'impudicité sur votre chemin. Ça va vous demander ce qu'il faut faire pour ne pas burfiquer, pour ne pas aller vers l'impudicité. Alors, c'est quoi l'impudicité? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était tout péché qui est lié au sexe. Tout péché qui n'est pas approuvé par Dieu. Tout lien intime entre deux personnes non bibliquement mariées. Qu'on parle de fornication, qu'on parle d'adultère, qu'on parle de lien intime entre une personne avec un proche entourage, qu'on parle de lien intime entre deux personnes de même sexe, qu'on parle de lien intime entre une personne et un animal, mais tous ces péchés-là ne sont pas approuvés par Dieu, et la Bible appelle ça l'impudicité. Le mot grec qui donne la signification impudicité, c'est le mot porneia. Le même mot traduit en français, la même racine qui donne le mot pornographie, pour vous montrer que l'impudicité est intimement liée au péché d'ordre sexuel. Et devant les conséquences graves d'un tel péché, lors de notre deuxième séance, on a pris l'exemple du péché de David, malheureusement, pour vous montrer les impacts du péché de l'impudicité. On a vu comment cela a marqué la maisonnée de David, comment cela a fait des ravages. Et devant de telles conséquences, le chrétien a pour l'obligation de s'abstenir de l'impudicité, de fuir l'impudicité et de faire mourir tout type de comportement, de caractère enclin à l'amener dans le chemin ou sur le chemin de l'impudicité. Maintenant, nous allons aborder la troisième partie, la dernière. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. La sanctification en abandonnant la fraude. Nous avons vu l'impudicité. Maintenant, Dieu nous dit, dans notre cheminement avec lui, inévitablement, on va croiser la fraude. Alors, ça va être quoi notre réaction? La fraude, le mot grec ici qu'on trouve dans la Bible, c'est le mot pléonectaro. Ce mot-là est traduit en français pour essentiellement dire prendre l'avantage sur l'autre, le duper, tirer un profit au détriment de cette personne-là. Le fait d'avoir le dessus sur l'autre, soit en mentant, soit en utilisant des stratagèmes pour profiter, abuser de l'autre et être supérieur à cette personne-là. C'est un petit mot. Mais l'objectif derrière est lourd de conséquences. Lorsque je fraude, je n'accepte pas ma situation, je veux avoir plus pour profiter de l'autre personne. Et Dieu nous dit que ce n'est pas accepté. Dans nos relations entre frères, ben il ne doit pas y avoir de la place pour la fraude. Et la fraude est sanctionnée dans la Bible. La fraude est sanctionnée et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le livre des Psaumes, chapitre 101, le verset 7 nous dit: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans ma présence. Ça, c'est la conséquence de la fraude. On le voit ici, mais ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous que lors de la première séance, j'ai pris un verset avec vous, c'est le verset qui était dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Il dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On parlait de la sanctification et on nous dit « Si on n'est pas sanctifié, on ne verra pas le Seigneur. » Mais pour corroborer tout ça, la fraude qui nous empêche d'être saints, si on le pratique, mais ce verset-là nous dit exactement la même chose. On ne pourra pas habiter dans la maison de Dieu. On ne pourra pas jouir de sa présence parce que la fraude fait de nous une personne qui est inique. Et Dieu ne peut pas poser ses regards sur l'iniquité, sur une personne qui est inique. Deutéronome chapitre 24, le verset 7, nous dit également: « Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un des enfants d'Israël et qui en ait fait son esclave, ou qu'il ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Dieu, non seulement ne peut tolérer la fraude, en tant que juste juge, est appelé également à sévir. Et la personne qui est abusée, cette personne-là, les plaintes de cette personne-là, nous disent l'épître de Jacques, monte jusqu'à l'Éternel. Jacques chapitre 5, je m'excuse, le verset 4 nous dit, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Donc, vous comprenez, en fraudant quelqu'un, en utilisant, en pratiquant ces genres de choses, ben, on se disqualifie de la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut s'éloigner de nous, mais notre comportement, la chose qu'on a commise, fait en sorte que le regard de Dieu ne peut pas se poser sur nous. Et c'est parce que Dieu veut. Ésaïe l'explique très bien au chapitre 59, les versets 1 et 2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nous sommes donc ici, non pas invités, mais ordonné par Dieu à délaisser ces genres de choses-là pour pouvoir subsister en sa présence, pour pouvoir demeurer dans sa maison. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est quelque chose qui est possible. Mener une vie sanctifiée, mener une vie exempte de fraude est possible. Regardons un texte dans l'évangile de Jean, les versets 43 à 47. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous l'avons trouvé, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Ça veut dire, on est capable de vivre comme Nathanaël. Il y a deux choses qu'il faut considérer ici. C'est que, un, oui, une vie sans fraude est possible. Mais l'autre aspect qui n'est pas mentionné, qu'il faut considérer aussi, c'est que Jésus voit tout. Jésus voit tout. Car le reste du texte nous dit, Nathanaël a posé cette question-là à Jésus, « D'où me connais-tu? » Jésus lui a répondu, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Et nous trouvons ici, dans cette phrase, probablement la chose capitale pour nous aider à mener une vie exempte de fraude. Jésus nous voit constamment. Jésus nous voit constamment. Peu importe l'endroit où nous allons, peu importe ce que nous faisons, ce que nous pensons, Jésus nous voit. Jésus connaît nos pensées. Jésus entend nos paroles. Et Jésus est témoin de chaque geste posé. Lorsque j'arrive à prendre conscience de cela, je dois ajuster mon comportement en conséquence. Je dois faire attention à ce que je dis. Je dois faire attention à ce que je pense. Je dois faire attention aux actions que je pose. Parce que Jésus pose son regard sur moi et me voit constamment. Alors, il est de ma responsabilité de savoir qu'est-ce que je vais lui montrer. Est-ce que ce que je vais lui montrer va honorer son nom? Est-ce que je vais dire le geste que je vais poser, la pensée qui va me traverser l'esprit, est-ce que ça va honorer Dieu? Et qui va faire en sorte que lorsque Jésus me regarde, lorsque Dieu me regarde, il sera en mesure de dire, je vois quelqu'un en qui il n'y a pas de faute. Vivre pour plaire à Dieu, vivre une vie de sanctification, mais on se doit de garder cela constamment en tête, de dire que le regard de Dieu est constamment posé sur nous. Si dans notre cheminement, on n'est pas encore capable de poser des actions par amour pour Dieu, mais par crainte, c'est ce que nous devons faire. Sachant que il voit tout. Il sait tout. Il voit tout. Nathanaël, sans même rencontrer Jésus, a possiblement avait compris que Dieu avait les yeux pour tout voir. Mais il a été tout simplement témoin parce qu'il ne connaissait pas qui est Jésus. Mais en le voyant, mais il a professé qui est Jésus après cette déclaration-là. Il y a malheureusement des moments où nous pouvons trébucher. Mais si nous trébuchons, le plus important, c'est de le reconnaître et de ne pas continuer sur la voie de la fraude. On peut prendre un autre texte où nous voyons quelqu'un qui, au moment de rencontrer Jésus, a décidé de faire la chose qu'il fallait. Luc, chapitre 19, verset 8. Je paraphrase, mais vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée a voulu rencontrer Jésus. Il est allé à monter jaucher sur un arbre pour voir Jésus passer. Et Jésus connaissait déjà cette personne-là. Lui disait, dépêche-toi de descendre parce que je vais séjourner chez toi. Ce qui nous dit que la vie de Zachée n'était pas conforme, qu'il y avait de la fraude dans sa vie, c'est que le public qui était là mentionnait si Jésus savait qui était cet homme-là, eh bien, il n'aurait pas pris cette décision-là. Il n'aurait pas accepté d'aller séjourner chez lui. Mais lorsque le salut est rentré dans la maison de Zachée, mais sa vie a été transformée. Et ce qu'il a dit ici, c'est « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Donc, c'est quelqu'un qui décide de changer de cap. C'est la même exhortation qui nous est adressée aussi. Si dans notre vie actuelle, après le constat, après avoir rencontré Jésus, lorsque sa lumière nous montre notre vie et pointe en direction d'une fraude quelconque, mais on se doit de dire, je ne peux pas rester comme ça. C'est ce que Zachée a fait. Zachée avait compris que sa vie devrait être tout autre après avoir rencontré le Christ. Et nous devons également agir de la même sorte pour changer, pour ramener notre vie sur la bonne direction. Mais le texte que nous prenons ici nous dit non seulement qu'il ne devait pas y avoir de la fraude dans nos relations entre frères, mais le texte nous dit aussi que la cupidité ne doit pas avoir de place dans nos relations. Alors, c'est quoi la cupidité? La cupidité, c'est l'amour de l'argent, c'est la part du gain. C'est une avidité, c'est une soif d'avoir toujours un peu plus d'argent pour satisfaire ses propres ambitions. Dans la définition, il y a un point commun entre la fraude et la cupidité, en ce sens que le désir est là parce qu'il y a une insatisfaction de son état actuel et on décide, on prend les moyens pour changer soi-même cette situation-là, soit en allant frauder ou soit en allant chercher un peu plus d'argent. La cupidité, c'est l'amour de l'argent, mais c'est aussi un cercle vicieux. On est vite insatisfait. Et le diable le sait très bien. La stratégie du diable, c'est de nous présenter la chose par couches successives. C'est de nous présenter la fraude d'une certaine façon aujourd'hui. Et si on accepte, eh bien demain, c'est une autre facette. Il nous amène tranquillement en eau profonde jusqu'à ce qu'on arrive, ben, l'eau arrive à notre cou et ça dépasse notre tête. Mais l'amour de l'argent, la cupidité, c'est la même chose aussi. On commence tranquillement à faire des compromis, à donner une valeur, une place à l'argent qu'il ne devrait pas avoir. Et tranquillement parlant, au lieu que l'argent soit un outil dans notre main, mais l'argent devient notre maître. Et si l'argent devient notre maître, ben ça veut dire Dieu n'a plus sa place dans nos vies, il n'occupe pas la première place qu'il devrait occuper. Colossiens chapitre 3, le verset 5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Lorsque l'amour de l'argent prend des proportions démesurées, eh bien Dieu n'est plus sur le trône. L'argent prend toute la place. Lorsque, dès le réveil, le réflexe, c'est d'aller voir son compte en banque pour voir combien qu'il y en a. C'est pas la prière. C'est pas chercher la face de Dieu qui est la première chose qu'on fait à notre réveil. C'est à se demander, mais qu'est-ce qui occupe la première place dans notre vie? Lorsqu'il y a une activité qui pourrait consolider notre foi, qui rentre en conflit avec une annonce sur le marché boursier, et on préfère regarder l'annonce qui va être faite parce qu'il va y avoir un impact sur le marché boursier, et on néglige le côté spirituel de notre être, c'est à se demander qu'est-ce qui occupe la première place dans notre vie. N'allez pas croire que la décision, elle est assez facile et va venir du premier coup. Mais pour que quelqu'un décide de négliger son âme et d'accepter de glorifier l'argent, mais c'est parce que le diable a déjà fait tout un chemin. Et il y a une cassure qui n'a pas été faite. Mais Dieu ne veut pas qu'on se rende jusque-là. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Lorsqu'on prend l'argent, on le met sur le trône, mais Dieu n'a plus sa place. Et la Bible est assez sévère par rapport à l'idolâtrie. La Bible dit que les personnes qui sont idolâtres ne vont pas hériter non plus le royaume de Dieu. La Bible dit aussi dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, « Car, sachez-le bien, aucun impudique, ni impur, ni cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu. » Alors, c'est un pensez-y bien. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Est-ce qu'on l'utilise comme un outil ou est-ce qu'on l'utilise comme la chose qui a la première place? Et ça, c'est un discours qu'on ne va pas entendre parler souvent. On vit en 2022, on dirait que quelqu'un qui est bien nanti, et croyez-le ou non, j'ai rien contre les personnes bien nanties, mais il y a une association qui est faite, c'est comme si cette personne-là, une fois avoir gagné beaucoup d'argent, la personne devient un monsieur ou une madame tout d'un coup. Au lieu de comprendre mais comment l'argent est utilisé par cette personne-là. Mais la société a tendance à glorifier l'argent, à glorifier quelqu'un qui possède beaucoup d'argent. Si tu entends parler des fois, mais on évalue la personne à la somme détenue dans son portefeuille. Une sorte de classement. Les valeurs morales qui devraient nous dire qui est cette personne-là, en 2022, prennent le bord. Mais c'est le culte de l'argent. Quand je regarde mon cercle d'amis, mais combien de personnes qui sont millionnaires que j'ai dans mon cercle d'amis? Combien de personnes qui sont bien nanties? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà entendu ce discours-là. La personne regarde ses amis, vous ne pouvez pas être mon ami, on ne peut pas être ami parce que ben, dans mon cercle d'amis, mais je cherche du monde avec un portefeuille bien rempli. Ça, ce sont les valeurs de la société actuelle. Ce n'est pas les valeurs qui étaient prisées par le passé, mais le diable ramène ça de nos jours. Et c'est pour cela qu'au tout début, je vous disais, il y a des choses qui étaient inacceptables par le passé, qui le sont aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a tendance à nous faire croire qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais pour Dieu, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. L'argent doit être toujours un outil entre les mains du croyant. L'argent ne devrait jamais occuper la première place. C'est pour cela que Paul a écrit à Timothée pour lui dire « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Comment je vis par rapport à l'argent? Est-ce que j'entame une course effrénée pour augmenter la quantité que j'ai dans mon compte bancaire ou je remets tout simplement mon avenir entre les mains de Dieu? Et si on entend parler d'une personne cupide, la personne peut dire, non, moi, non, je ne suis pas cupide. Et en médecine, on dit toujours, il n'y a pas plus malade que le malade qui ignore sa maladie. Mais je pense qu'en cupidité, on peut dire la même chose aussi. La personne qui est cupide et qui ne sait pas qu'elle est cupide, mais cette personne-là ne pourra jamais être guérie de la cupidité. Mais le croyant doit mener sa vie différemment. Je ne dis pas que le croyant doit faire une croix sur l'argent et de dire on n'en a pas de besoin. On a tous besoin. Mais c'est l'usage dont on en fait. Et c'est quelle relation qu'on a avec l'argent. C'est ça le plus important. Dieu nous invite tout simplement à dire, à remettre notre avenir entre ses mains. Il dit qu'il prend soin des oiseaux, il prend soin des champs. Nous valons plus que ces genres de choses-là. C'est ce que l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, je crois, nous dit. S'il prend soin des oiseaux et des champs, et nous avons plus de valeur que ces choses-là, à combien plus forte raison il est capable de prendre soin de nous? Et ce texte-là, rappelez-vous comment ça a commencé. Ça a commencé dans Matthieu, chapitre 6, le verset 24. La façon que ça a commencé, c'est qu'il a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Alors, si vous voyez la suite à partir du verset 25, on est capable de caser les choses à la bonne place. Mes soucis par rapport à mon avenir pour le lendemain, de quoi je vais me nourrir, comment je vais me vertir, ça ne devrait pas être notre principale priorité. Dieu est capable, Dieu va s'occuper de ça. Et la façon que le diable procède pour faire de nous un cupide, c'est de nous envoyer, de nous bombarder avec ces genres de soucis-là. Et si on n'est pas vigilant, ben on va tomber dans le piège. On va voir rien que les soucis. Et on aura tendance à comprendre que ben, ces problèmes-là, c'est l'argent qui va les solutionner. Non. Nos problèmes en tant que chrétiens, notre Seigneur s'en occupera. Notre Seigneur est capable de solutionner nos problèmes. Mais on n'a qu'à cheminer de la bonne façon. On devrait faire du royaume de Dieu notre priorité et ce dont nous avons besoin, Dieu va s'en occuper. Et le texte le dit bien, ce n'est pas nos caprices. Ce dont nous avons besoin, Dieu va s'en occuper. Amen. L'évangile de Marc nous dit aussi que ça sert à un homme de gagner, que ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Alors, la course effrénée pour l'argent, c'est à quel prix? À quel prix? Au tout début, on a mentionné l'action de Dieu pour qu'on soit saint. Et on a dit, ben, tout ce qui fait en sorte que son regard était détourné de nous, Jésus l'a amené à la croix. Dieu a vu le prix de notre âme. Et ce qu'il a mis dans la balance, c'est sa propre vie. Sa propre vie pour nous donner cette position de sanctification-là. Alors, nous, en retour, quel genre de compromis qu'on va faire? Qu'est-ce qui pourrait égaler à la vie de mon Seigneur que le diable va me faire miroiter pour que j'accepte et ignorer ce que mon maître, le prix que mon maître a payé pour moi? C'est la question à se poser. La prochaine fois qu'on est tenté, la prochaine fois que je suis tenté, c'est à ça qu'il faut penser. Ce que le diable me fait miroiter, est-ce que ça a plus de valeur que mon âme? Est-ce que je vais faire de l'argent mon idole au prix de mon âme, tout en sachant que Jésus a donné sa vie pour mon âme? Amen. Alors, l'exhortation qu'on a ici, c'est de mener une vie pour plaire à Dieu. C'est de mener une vie exempte de fraude. C'est de garder en tête que le sacrifice de Dieu à la croix, il n'y a rien qui peut égaler cela. Alors, si je suis tenté, c'est de détourner mon regard et de voir le prix que Christ a payé pour moi, et ce prix-là est tout simplement inégalable. Le texte poursuit pour dire que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme cela a déjà été attesté. Nous l'avons mentionné tantôt au moyen d'un verset dans l'Ancien Testament, Deutéronome et même dans les psaumes. Mais ici, le texte nous dit que Dieu tire vengeance de ces genres de choses-là. Le mot grec pour le mot vengeance, c'est le mot ekdikos. Et on trouve ce mot-là deux fois dans la Bible, dans les deux épîtres, l'épître aux Romains, chapitre 13, verset 4, et l'épître qu'on vient de lire, le texte même, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. À chaque fois que ce mot-là a été prononcé, ça a été prononcé dans le but de dire qu'il y a quelque chose qui a été posé et que Dieu ne peut pas regarder les bras croisés sans sévir. Si on regarde l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 4, il dit, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance, édikos, et punir celui qui le fait. Donc, nos actions, nos transgressions, malheureusement, ne seront pas restées en toute impunité. Sinon, comment Dieu serait un juste juge? Et souvent, nous en avons besoin. Pas parce qu'on est, masochiste, on aime la souffrance. Mais l'être humain, en tant qu'il est, sans une correction nécessaire, mais la personne risque à rester, à répéter les mêmes comportements. Souvent, Dieu a besoin de sévir pour nous faire comprendre, mais il ne fallait pas y aller. Si Dieu doit juger les païens, à combien plus forte raison que ça doit commencer dans sa propre maison? Parce que sinon, un inconverti pourrait crier à l'injustice. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que, oui, Dieu est bon, il nous fait grâce, nous sommes sous la grâce, justement. Nous en bénéficions adamment. Mais il ne faut pas non plus, en beau québécois, niaiser Dieu pour sa grâce. Il ne faut pas prendre la grâce de Dieu comme un boulevard pour aller commettre le péché. Dites-vous une chose, Dieu est juste. Et le verset ici est Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, qui dit que ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance, c'est le même mot. Le Seigneur tire vengeance. Est-ce que je veux vraiment m'en aller vers là? Est-ce que je veux vraiment que mon Dieu me tienne rigueur par rapport à mes comportements? En tout cas, je ne le souhaite pas pour moi et je ne le souhaite pour personne. Parce que le Dieu Tout-Puissant qui décide de se venger, comment je pourrais subsister? Comment je pourrais tenir debout? Et c'est pour cela qu'on doit prendre cette exhortation-là au sérieux. Dieu nous invite à cheminer dans la sanctification. Et il nous donne les balises assez claires, afin que nul ne puisse dire « Je ne savais pas comment marcher, comment mener une vie sanctifiée. » Pour mener une vie sanctifiée, il faut s'abstenir de l'impudicité. Il faut mener une vie exempt de fraude. Il faut avoir une saine relation avec l'argent. Il faut constamment regarder dans notre vie qui est sur le trône. Est-ce que ce sont mes désirs, mes passions, l'argent ou Dieu? Mais le plus important, comme on l'avait mentionné tantôt, c'est de savoir que peu importe ce que je pense, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, à tout moment, le regard de mon Seigneur est constamment sur moi. Et lorsqu'on prend conscience de cela, mais il y a des choses tout simplement, on n'y dira plus. Il y a des actions qu'on ne posera plus. Il y a des sites qu'on ne visitera plus. Et il y a aussi, malheureusement, des amis qui ne feront plus partie de notre cercle d'amis. Et ça, c'est bien correct. C'est bien correct. Parce que les valeurs du monde, elles sont différentes des valeurs bibliques. Et on doit accepter d'être étiqueté, isolé de la part de ceux qui sont du monde. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a terminé l'enseignement qui a été débuté depuis environ 3 mois, où Dieu nous dit que c'est sa volonté, c'est une exigence de mener une vie sanctifiée pour lui. Mais aujourd'hui, on a terminé, si la sanctification commence par une relation entre Dieu et nous, si la sanctification se poursuit dans ma relation personnelle, dans ce que j'ai fait, dans mes liaisons intimes avec une autre personne devant Dieu, mais ça se poursuit aussi dans mes relations de tous les jours avec mes frères. Est-ce que Dieu nous demande dans nos relations de tous les jours? Mais c'est d'enlever la cupidité, c'est d'enlever la fraude dans nos relations entre frères. Ce qu'il faut cultiver à la place, c'est une vie d'intégrité. Une vie d'intégrité, c'est une vie qui est digne de confiance. C'est une vie où la fraude n'a pas sa place. Notre attitude envers nos frères, c'est de préférence de cultiver l'amour fraternel. Je ne dois pas regarder à ce que le frère a pour essayer de l'usurper afin de lui être supérieur, afin de vouloir constamment plus, afin de faire régner quelqu'un d'autre sur le trône. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur puisse amener encore plus loin cet enseignement-là. Et je le reconnais, ça a été amené avec les mots les plus naturels et possiblement pas avec beaucoup d'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la nature des mots qui vont faire un impact dans nos vies. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de la parole. Alors, que le Saint-Esprit puisse amener ces paroles-là à une dimension encore plus profonde pour que la parole puisse s'enraciner dans nos cœurs et prenne vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, nous te remercions. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Oui, tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui a tout préparé. Et tu es le Dieu qui connaît aussi le besoin de ton peuple. Alors cet enseignement, Seigneur Dieu, que tu as permis qu'on puisse terminer ce soir, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur. C'est toi, ô Éternel, qui connais les besoins. Puisses-tu toucher les cœurs, ô Éternel. Puisses-tu ramener ton peuple, chacune de nos vies, Seigneur Dieu, à expérimenter une nouvelle facette de la sanctification. Seigneur, s'il y a des décisions qui doivent être prises, sois notre soutien. Permets, Seigneur Dieu, qu'une détermination profonde, ancrée, Seigneur Dieu, dans ta parole, puisse être prise afin qu'on soit détourné, Seigneur Dieu, du mauvais chemin pour nous éloigner, Seigneur Dieu, non seulement de l'impudicité, mais également de toutes sortes de fraudes, de toutes sortes de stratagèmes qui ne t'honorent pas. Et permets, ô Dieu, que nos relations avec toi soit encore plus saine, ô Éternel. Que l'amour de l'argent ne trouve aucune place dans nos vies. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et faire cette analyse-là et prendre des décisions qui s'imposent. Nous te disons merci, Seigneur, car ta puissance est à l'œuvre ce soir. Ta parole est efficace pour apporter, Seigneur Dieu, les fruits pour lesquels tu l'envoies. Je veux remettre, ô Dieu, ton peuple entre tes mains. Nous te bénissons, nous te disons merci pour la présence de chacun ici ce soir. Merci pour ceux qui nous ont suivis à distance. Déploie encore ta bénédiction, Seigneur Dieu, sur chacun de nous. Permets à chaque personne ici présente de pouvoir rentrer en toute sécurité dans leurs maisons respectives. Que ta paix, Seigneur Dieu, soit sur chacun de nous. Nous t'avons prié non pas parce que nous sommes bons, mais c'est le nom précieux de ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.